podcasts de Radio Vatican.
C'est un événement inédit et exceptionnel qui s'est tenu ce jeudi matin au Vatican dans la salle Paul VI. Le pape François a reçu en audience plusieurs personnes atteintes de la maladie d'Huntington, leur famille ainsi que plusieurs associations et organisations de patients venus du monde entier. L'occasion d'attirer l'attention sur cette maladie neurodégénérative rare et peu connue, héréditaire, qui altère graduellement les capacités physiques et intellectuelles de ceux qui en sont atteints et pour laquelle il n'existe aucun traitement. C'est un message fort de proximité et de solidarité que le souverain pontife a souhaité lancer à ces malades et à leurs familles, parfois confrontés à l'incompréhension, à la défiance et à l'isolement, les enjoignant à ne plus se cacher, ni à culpabiliser, ni à avoir honte d'une fragilité qui les rend d'autant plus précieux aux yeux de Dieu et de l'Église. Des paroles qui ont touché Alice Rivière de l'association française Ding Ding Dong, elle-même membre d'une famille Huntington. Présente ce jeudi matin en salle Paul VI, elle revient sur l'importance de cette rencontre.
C'est une maladie qui est très évolutive et qui touche toutes les sphères de ce qui fait un être humain, c'est-à-dire à la fois la façon de réfléchir, de penser et de s'exprimer, à la fois des problématiques vraiment motrices qui font qu'on est assez vite dépendant, on ne peut plus bien trouver son équilibre, on est pris par des mouvements incontrôlés, on a des problèmes pour avaler, donc on fait des fausses routes, etc. Et puis des problèmes un peu comportementaux et psy, parce qu'au bout d'un moment, de subir tout ça, c'est compliqué, on est dans une impuissance assez terrible, et du coup, on a plus beaucoup de moyens pour exister quand même et pour s'exprimer, et souvent, ça donne des comportements qu'on juge un petit peu abrupts. Mais en même temps, quand une personne avec Huntington est bien prise en charge, en fait, il n'y a pas du tout de problème au niveau du comportement, je veux dire. Par contre, oui, c'est une maladie qui entraîne vraiment une dépendance importante et donc il faut se faire beaucoup aider. Il n'y a pas de traitement curatif. Mais il y a beaucoup de choses maintenant qui améliorent le confort de la vie avec ça. Comme ça touche des personnes qui sont au beau milieu de leur vie active, c'est aussi des conséquences sociales importantes. Quand vous avez un métier, que vous gagnez votre vie, etc., au bout d'un moment, c'est compliqué de travailler autant. Mais ça se fait graduellement, donc tout le travail qu'on essaie de mettre en place, c'est d'anticiper les choses et de pouvoir faire qu'on puisse vivre le plus possible normalement et qu'au bout d'un moment, on se fasse aider, mais que ce soit vraiment le plus possible fluide et pas abrupte d'un seul coup. Nous, on a la chance ici, en Europe et aux États-Unis, d'avoir les moyens pour essayer de faire ça. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment autour de familles qui viennent d'Amérique latine. De pays où ils ont vraiment mais très 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 peu de moyens, absolument aucun accès aux soins. Et là, ça peut être en effet l'enfer de vivre avec ça au quotidien.
Alors, vous insistez sur l'importance de l'accompagnement, de ne pas être seul. C'est valable évidemment pour toutes les maladies. Mmh. Mais dans votre cas, j'imagine que le rôle de votre famille est très important.
Oui, puis surtout, ce qui est très particulier avec cette maladie, c'est que c'est une maladie familiale. Donc, en fait, on a à chaque génération plusieurs personnes atteintes. Donc, on peut être à la fois malade et aidant. On peut avoir des oncles, des tantes, des cousins, des sœurs, des frères atteints. Ça peut être vraiment parfois assez catastrophique, quoi. Sur une fratrie de 5, vous pouvez avoir 4 personnes qui sont malades à différents stades, etc. Donc, c'est des familles qui sont entraînées dans cette histoire et qui doivent tout de même trouver les manières d'être le mieux possible avec tout ça. Et puis, c'est un accompagnement qui génère aussi une solidarité dès le berceau, en fait. Mais où, alors là aussi, en Europe, on commence à vraiment prendre en considération les aidants et les caregivers, enfin, des personnes qui vont vraiment donner de leur temps, de leur personne. Parce qu'elles ont vraiment besoin d'être elles-mêmes reconnues dans ce travail quotidien. Sinon, très vite, elles sont débordées et c'est là que ça se passe mal pour tout le monde. Mais je dirais qu'aussi une chose qu'on commence à peine à voir, c'est que les personnes qui sont affectées par ce genre de maladies dites neurodégénératives, elles ont aussi leur mot à dire sur comment elles ont envie, pas forcément de subir tout ça, mais qu'elles peuvent aussi elles-mêmes avoir leur mot à dire, décider de où elles voudraient vivre plus tard, si elles voudraient aller en institution ou pas, de pouvoir vraiment prendre à bras le corps tout ça, tous ensemble, plutôt que juste le subir. Et ça, c'est en train seulement maintenant d'arriver comme manière de faire, parce que jusqu'à très peu de temps, on se faisait juste subir ce truc, et c'était vraiment la maladie de la malédiction, de la honte, vous étiez vraiment pris pour les fous du village, etc. Et voilà, de plus en plus, grâce à des événements comme aujourd'hui, on sort dans la cité, quoi.
C'est vrai que quand on s'intéresse à cette maladie, on remarque que ce que vous abordez, le thème de la stigmatisation, la marginalisation est quand même très prégnant. Le pape en a parlé également aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reconnaît cette maladie et les souffrances qui y sont attachées. Qu'est-ce que ça représente, cette reconnaissance pour vous, et qu'est-ce que vous attendez justement pour la suite?
C'est un énorme événement. C'est vraiment, qu'on le soit d'ailleurs, soi-même religieux ou pas, catholique ou pas, c'est de toute façon un événement absolument crucial et immense pour notre communauté de personnes concernées par la maladie d'Huntington. C'est une maladie rare, comme vous l'avez dit, et que du coup, à la fois, tout simplement la connaissance de la maladie a vraiment du mal à aller jusqu'aux oreilles des gens, mais aussi toute l'image extrêmement négative qu'elle véhicule, alors que ce n'est pas une fatalité non plus. Et aujourd'hui, le pape, là, toutes les personnes qui l'entouraient, et Elena Cattaneo et Charles Sabine, tous ceux qui ont permis à cet événement de voir le jour, ont vraiment peut-être changé la donne très concrète de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense notamment aux personnes souffrant de cette maladie en Amérique latine qui, je crois, là, vont pouvoir aussi attirer l'attention des financeurs pour tout simplement qu'ils aient le béaba, en fait. C'est à la fois symboliquement énorme parce que c'est, moi, je repars avec de l'énergie pour la suite, vraiment. Et je crois qu'on était tous comme ça. Mais c'est aussi énorme pour la connaissance de la maladie et donc le fait de pouvoir contribuer à l'effort pour trouver à la fois des traitements et accompagner ceux qui sont déjà malades.
Le pape a insisté sur l'importance de parler de cette maladie, de l'affronter, mais également il a lancé un appel aux autorités politiques, médicales et religieuses. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces autorités aujourd'hui? De quel engagement est-ce qu'on parle?
On parle d'engagement qui ne laisse pas tomber des malades rares pour trouver un traitement parce qu'elles sont rares et que ce n'est pas forcément le nombre qui compte, mais la souffrance. C'est une maladie dont le nombre n'a jamais cessé de, non pas d'augmenter, mais elle n'a jamais baissé non plus. Donc ça reste une problématique très très prégnante pour toutes ces familles. Et donc on attend du coup qu'il y ait une attention des chercheurs et des pouvoirs publics en santé pour contribuer à l'effort de la recherche et puis surtout contribuer à l'effort de la prise en charge, parce que même si c'est incurable, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le confort des malades et de leurs entourants.
Quoi par exemple?
Il y a par exemple vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois neurologique, psychologique, vraiment beaucoup, avec l'orthophonie qui change tout parce qu'on apprend à moins avaler de travers, donc moins de risques de mort par fausse route. Aussi la kiné qui est très très importante, aussi de pouvoir être tout simplement, c'est au bout d'un moment un staff non-stop du matin au soir, même la nuit aussi, de pouvoir aussi avoir plus d'aide pour des familles qui peuvent parfois pas faire tout ça parce qu'elles doivent par ailleurs gagner leur vie. Et donc il y a vraiment une reconnaissance des besoins des entourants qui doit être soutenue par les pouvoirs publics, qui puissent vraiment aider un peu à au niveau de toute la chaîne, toutes les personnes impliquées.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce que le pape vous a dit ce matin?
Je crois que c'est quand il a dit au bout d'un moment il faut arrêter de se cacher, il faut sortir de l'ombre, il ne faut pas avoir honte. Et une chose qui m'a vraiment touchée, c'est quand il a dit ne cédez pas à la tentation de vous sentir coupable. Parce qu'en fait, quand on est impliqué dans ces histoires-là, en tant qu'aidant, et même en tant que malade, parfois on en a marre, c'est compliqué, c'est difficile, c'est vraiment un peu un fardeau de chaque instant, etc. Et parfois on a envie aussi d'aimer la vie et de pouvoir avancer, etc. Et on peut se sentir très coupable, on peut se sentir aussi très coupable parce qu'on n'est pas malade et que sa sœur ou son frère l'est. Toute cette culpabilité, en fait, elle sert à rien. Et venant d'un pape, d'une personnalité catholique, c'est très important d'avoir donné ce message. Parce que la culpabilité, elle est un poison, en fait. Elle ne permet absolument pas d'avancer. Et surtout, au fond, d'être, malgré tout ça, de vivre une vie digne. Une vie digne d'être vécue. Et tout en vivant cette maladie, on peut assumer les choses vraiment bien et vivre, en fait, une vie assez exceptionnelle. Extraordinaire dans le sens littéral du mot, mais tout de même une vie digne d'être vécue.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.